et pour vivre un culte à sa gloire. Le psaume dont je vais vous parler aujourd'hui, le psaume 16, fait partie des psaumes de l'espérance, qu'on appelle aussi les psaumes messianiques. Nous verrons ce qu'il contient. Je passerai assez rapidement sur tous les détails de ce contenu, parce que c'est un psaume court, 11 versets, mais il est très riche. Et en plus, son intérêt, c'est qu'il a été commenté par les apôtres Pierre et Paul. Il est dense, on peut le comprendre à trois niveaux. On peut comprendre que c'est l'auteur qui parle de lui-même, le roi David. Mais on peut, ce qui a été fait pendant des millénaires, le prendre à notre propre compte et le prier pour tous les croyants. Et puis, comme on le verra, et Pierre et Paul ont été les premiers à mettre le doigt dessus, on peut voir qu'il parle en fait, David, de quelqu'un qu'il ne connaissait pas encore, mais qu'il prévoyait, son descendant, le Messie. Voyons d'abord le texte. Je suis pas sûre d'y arriver. Pardon ? Ah, d'accord. Voilà. Après beaucoup d'hésitations, j'ai pris la version du Semeur, qui me paraissait la plus agréable à étudier avec vous. Mais j'ai mis entre parenthèses quelques autres mots pris dans d'autres versions parce qu'elles étaient intéressantes. Alors, nous le lisons ensemble. Psaume 16, un cantique de David. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître, et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas mes lèvres. L'Éternel est ma part, la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de moi. Alors, j'aurai quatre parties, quelques détails sur le texte, pour comprendre les images, pour comprendre de quoi on parle, mais je n'ai pas été trop à fond. Et puis, ensuite, sur le chemin de la vie ici-bas, étape et récompense du croyant. Ça, c'est pour nous. Troisièmement, la prophétie messianique qui, de David, conduit au Christ. Et une conclusion, quelles espérances et promesse pour nous. Alors, comme je l'ai dit, il y a un petit mot au début du premier verset qu'on traduit par hymne, par chant, il y a même un autre mot dont on ne connaît pas vraiment le sens. Admettons qu'il s'agit d'un poème chanté, c'est le plus probable, ou accompagné de musique. Et comme tel, il parle d'émotion et il parle d'expérience spirituelle. On peut le prier, et ça a été fait, et ça continue à être fait dans l'Église catholique. L'auteur est très visiblement le roi David lui-même. Pour les spécialistes, en tout cas, on trouve tous les détails de style. Mais David, je vous le rappelle, était à la fois un roi, un musicien, un poète, mais également un prophète qui avait l'Esprit de Dieu sur lui. Et il a donc entrevu parfois l'avenir sous l'inspiration de l'Esprit Saint. On peut penser qu'il a été écrit après qu'il ait reçu du prophète Nathan la promesse de Dieu qu'il lui ferait une maisonnée, c'est-à-dire qu'il lui créerait une dynastie et que cette dynastie durerait à jamais, qu'elle durerait et que ses descendants régneraient à perpétuité. On trouve ça dans 2 Samuel 7. Quant au style du poème, il est caractéristique des poésies hébraïques, c'est-à-dire que chaque verset est souvent composé de deux phrases très courtes qui semblent se répéter, mais où en fait la seconde reprend l'idée de la première en l'amplifiant. C'est une manière de vous le faire entrer dans la tête et de donner des détails. Parfois d'ailleurs, il y a une opposition très violente. On l'a vu, j'aime ceux qui servent le Seigneur, mais ceux qui servent les idoles vont dans les tourments. Il y a aussi un certain nombre de termes obscurs, même de phrases obscures, d'où les différences de traduction d'une version biblique à l'autre. Mais il ne faut pas vous en inquiéter, c'est des différences qui ne changent rien au sens profond de ce psaume. Enfin, il y a beaucoup d'images à double sens. Un sens matériel, ça c'est aussi très typiquement hébraïque, on le retrouve chez Jésus. Utiliser des images très concrètes pour leur donner un sens spirituel. Alors voyons quelques-unes de ces images. L'Éternel est ma part, proclame David. Mais il n'est pas un prêtre. L'Éternel est ma part, c'est ce que les prêtres pouvaient dire, c'est ce que les Lévites pouvaient dire, puisqu'ils n'avaient pas reçu de terre en Israël. Et pourtant, David le dit, et on peut imaginer que c'est une manière de montrer son attachement exclusif à Dieu. Avant sa charge de roi, avant sa richesse, l'Éternel est ma part. Et ça m'a fait penser immédiatement à Marie lorsqu'elle était aux pieds de Jésus et que Marthe ronchonnait pour qu'elle vienne l'aider. Et Jésus lui a dit, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Et nous, est-ce que Dieu est notre part? Est-ce que nous sommes aussi membres d'une communauté de rois et de prêtres dont Dieu est la part? Toujours dans le même verset, David dit « Tu es la coupe où je bois ». La coupe apparaît très souvent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. L'image, c'est que quand on était invité chez quelqu'un, le maître de maison, au cours du repas, offrait une coupe. Et il offrait une coupe à chacun de ses invités. Il pouvait la faire déborder, comme on voit dans le psaume 23, et c'était alors une coupe de bénédiction. Mais ça pouvait être aussi la coupe de la colère de Dieu. Et il fallait la boire jusqu'à la lie pour les méchants. On retrouve cette image de la coupe, bien entendu, dans le repas de la Pâque juive. Et Jésus a la repris concrètement lorsqu'il a célébré son dernier repas avec les disciples. Et nous l'utilisons dans la scène. C'est la coupe du salut, la coupe de la bénédiction de Dieu. Ensuite, il dit, et ça a été traduit un peu différemment, « Tu garantis la part que j'ai reçue. » D'autres disent « mon lot ». Ça rappelle une fois de plus la répartition des terres qu'on faisait avec un cordeau. Alors, on avait réparti les terres pour les tribus, ça avait été très important parce que c'est ça qui donnait les moyens de vivre. Et puis quand il y avait un héritage, on divisait aussi la terre. Mais l'image, c'est que c'est en fait mon destin. Dieu a fixé mon destin. Et la réaction de David, c'est une réaction de ravissement. C'est un jardin plein de délices. « Mon héritage est merveilleux », disait-il au verset 6. Et évidemment, ça nous fait penser au jardin d'Éden. Et pour David, l'image devait avoir du poids, puisqu'il a passé des années de sa vie à fuir dans le désert. Et le jardin représentait tout ce qui était beau, tout ce qui était délicieux. Un peu plus loin, on voit dans un même verset, « Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, mon corps repose dans la paix ou dans la sécurité. » Âme, cœur, corps, c'est les trois composantes du corps humain. Dans la pensée hébraïque, elles ne sont jamais séparables. C'est le tout de l'être humain. Il n'y a qu'un moment où elles peuvent être séparées, et c'est un moment redoutable, c'est le moment de la mort. Et la mort, c'est le verset suivant, « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, ou tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. » Le séjour des morts, c'est le Sheol, ou Hadès en grec. C'était un endroit très triste, souterrain, sombre, où on disait que même Dieu ne venait pas vraiment, où on ne pouvait même plus bénir Dieu. Et les âmes étaient là, on ne savait pas pourquoi, on ne savait pas jusqu'à quand. C'était une pensée que d'autres civilisations de l'époque avaient, et qui restera presque jusqu'à l'époque du Christ. On ne pensait absolument pas à la possibilité d'une résurrection. Ou plutôt, très peu de gens y pensaient. Quelques prophètes, à l'époque de Jésus, un peu plus. Mais l'idée aussi que le corps se décomposait dans un tombeau, dans la fosse, et c'était une idée terrifiante. Je vous rappelle que c'est le séjour des morts, ce n'est pas l'enfer. L'enfer est un lieu de punition, c'est autre chose. Alors, peu à peu est venue l'idée que peut-être ce Sheol était un lieu d'attente. Peut-être que Dieu ferait quelque chose. Mais ça n'était pas du tout certain. Et pourtant, David, après ce verset très glauque, David s'exprime en disant donc tu ne laisseras pas moi, ton serviteur fidèle, ton ami, ton bien-aimé. Il y a plusieurs termes dans les traductions. Je pense que le mot hébreu devait être très large. Alors de qui s'agit-il? De David lui-même? C'est possible. S'agit-il de vous, de moi? Nous savons que nous sommes tous mortels. Mais la manière négative, l'affirmation négative, tu n'abandonneras pas, tu ne laisseras pas connaître la décomposition, pointe, pour nous en tout cas, vers le seul qui n'a jamais connu la décomposition, qui est mort, oui, qui a été enterré, mais qui n'a pas connu la décomposition parce qu'il est ressuscité. C'est notre Seigneur Jésus. Et quelque chose après très surprenant, tu me feras connaître le chemin de la vie. Quelle vie ? Le chemin de la vie, on l'a dans l'Ancien Testament, il faut suivre le chemin de Dieu. On le trouve dans le Nouveau Testament, il faut suivre l'enseignement de Jésus durant sa vie terrestre. Mais on a aussi suivre Jésus lui-même. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va au Père que par moi. Alors, est-ce qu'après le Sheol, il y a quelque chose ? David l'a peut-être pressenti puisqu'il parle d'une plénitude de joie en ta présence. Bon, ça pourrait être dans la vie terrestre, mais il ajoute « bonheur éternel auprès de toi ». Y aurait-il donc quelque chose qui nous attend après la mort ? David ne dit pas quoi, mais il le laisse sous-entendre. Avant d'en venir à ce point, j'aimerais quand même revoir avec vous les étapes de cette vie d'ici-bas, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, les étapes sont les mêmes. La première chose la plus importante, c'est de croire en la présence de Dieu, de lui parler, de l'écouter, bref, de nouer avec lui une relation intime, une alliance, une communion. C'est le but de notre vie terrestre, avoir cette relation avec Dieu. Par exemple, dans ce psaume, David dit « Il me conseille, il m'instruit et je garde les yeux fixés sur lui, où je ne le perds pas de vue. » Mais si on est conscient de sa présence, il faut faire confiance à ses promesses, notamment sa protection. Verset 1, « Je me réfugie en toi. » Et puis ensuite, « Dans la mort, tu ne m'abandonneras pas. » Quelle confiance ! Ces promesses ne se réaliseront pas tout de suite, nous le savons. Nous savons que nous allons mourir, nous savons que David est mort. Et pourtant, tu ne m'abandonneras pas dans la mort. Il faut aussi faire preuve de fidélité et d'amour envers Dieu lui-même, bien sûr. Tu es mon maître, tout mon bonheur est en toi. Mais aussi envers les autres croyants. Je suis plein d'affection pour les fidèles, pour les saints, ici-bas, de la terre, ça veut dire ici-bas. Et par opposition, la fidélité ne peut être qu'unique. Alors, par opposition, David rejette violemment les autres dieux, les idoles. « Je ne leur ferai pas d'offrande, je ne laisserai même pas leur nom sur mes lèvres. » Parce que prononcer leur nom, c'est déjà prendre conscience de leur existence et leur donner du poids. David s'y refuse. Et nous, faisons-nous la même chose ? Quelles sont nos idoles dans notre société ? Mais peut-être dans notre cœur. C'est une question à se poser. Dernière étape, accepter avec reconnaissance et manifester sa reconnaissance pour le lot qui nous est dévolu, le destin que Dieu nous a fixé. C'est une étape importante que parfois on a tendance à oublier. On prie pour intercéder, on prie pour demander de l'aide. Est-ce qu'on prie aussi souvent pour dire merci, même quand on se sent mal ? c'est important. Et si on vit ainsi, ici-bas, quelles sont les immédiates récompenses? Il y en a. D'abord, se sentir en sécurité. Je me réfugie en toi. Et David l'a fait et l'a dit à de multiples reprises. Tu m'es mon refuge, tu me conseilles, même la nuit. Par contre, ceux qui ne suivent pas Dieu éprouvent des tourments grandissants, alors qu'un croyant vit dans la paix. Le résultat, bien sûr, c'est une grande joie. C'est le sentiment qui domine dans ce psaume. Malgré les allusions à la mort, c'est un psaume de joie. Et l'image de la joie, selon les traductions, elles sont très fortes. Par exemple, être dans la joie, tressaillir de joie, jubiler, avoir le cœur en fête, exulter d'allégresse, danser de joie. On imagine tout ça. Et finalement, plénitude de joie. À côté de la joie, il y a la paix. Même la nuit. Je vous rappelle que pour les gens de l'époque, la nuit était terrifiante. On ne savait pas ce qui pouvait se passer. Là, la nuit est paisible. Et David a dit encore ailleurs, « Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, Éternel, je demeure en sécurité. » C'est le psaume 4. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi il m'arrive d'avoir des insomnies. J'aimerais bien pouvoir être comme David. Et puis, David semble être en paix, même face à la mort, qui était terrifiante pour tout le monde. Et enfin, il parle d'un bonheur éternel après la mort. Un bonheur, ça veut dire une vie. Mais de quoi il parle ? La notion de résurrection n'apparaît pas dans ce psaume. Et elle n'était pas évidente. Jusqu'à l'époque du Christ, il y avait des gens qui la rejetaient férocement. Vous vous rappelez que les Grecs ont ricané quand Paul a voulu leur en parler. Et puis les Sadducéens, eux, ils hurlaient dès qu'on prononçait ce mot. Les Sadducéens dans le Grand Conseil juif. Alors voyons maintenant en quoi cette prophétie est messianique. C'est David qui parle. Mais de qui ? De lui-même ? De chacun de nous ? Ou, je vous rappelle qu'il est prophète, est-ce qu'il pourrait parler de quelqu'un de plus grand et de plus parfait que lui ? Ce fameux descendant que Dieu lui avait promis, qui viendra 40 générations plus tard, c'est ce que nous savons, ce sera Jésus-Christ. Il est évident que pour la plupart des commentateurs juifs, même actuels, et pour quelques chrétiens, David parle uniquement de sa relation ici-bas avec Dieu, puisque le mot « résurrection » n'apparaît pas, et que la notion de vie éternelle restait floue. Oui, il y a une aspiration à l'éternité dans l'âme de l'homme. C'est ce qu'Ecclésiaste nous dit. Mais comment y parvenir ? Les croyants, je l'ai déjà dit, peuvent prendre ce psaume pour eux. Mais certains commentateurs ont remarqué que cette présentation du modèle, comme je vous l'ai dit, avec ses étapes de vie et tout, c'est trop parfait pour un seul homme, même pour David. Puis David n'était pas plus parfait que nous, l'épisode de Bathsheba le montre. Même s'il avait l'Esprit de Dieu, c'était un pécheur comme nous. Alors, est-ce que c'est juste un modèle à suivre pour être agréable à Dieu ? Est-ce que c'est juste un modèle à suivre, comme on a dit parfois, du sermon sur la montagne, mais qu'on ne peut pas vraiment suivre ? Et pourtant, un certain nombre de commentateurs, à commencer par Pierre et par Paul, c'est pas n'importe qui, disent clairement que David, là, a eu une prescience, a eu une vision, et il parle de Jésus-Christ. David est le roi oint par Samuel, et il a reçu l'Esprit de Dieu. Il est un serviteur fidèle, malgré ses manquements, Dieu l'a dit. Mais le Messie qu'on attendra peu à peu, c'est loin de Dieu, avec un grand O. Et c'est Jésus-Christ. Lui seul est dans la parfaite communion avec son Père, jusqu'au bout, même sur la croix. Il devait pourtant mourir. Les prophètes l'avaient annoncé. Il devait être enterré. Ésaïe, par exemple, les chants du serviteur et d'autres l'avaient dit. Mais il ne pouvait pas connaître la décomposition. Alors il se peut que le prophète David lui prête sa voix et qu'en fait, tout ce poème « Tu ne m'abandonneras pas » à travers David, c'est la voix du Christ. Et on sait que dans l'Ancien Testament, en tout cas les commentateurs le disent, David apparaît comme un modèle, un type du Christ à venir. Si vous voulez utiliser l'image de Paul, dans ce que dit David, c'est l'ombre d'une réalité à venir. Joseph était un peu comme ça, Moïse, David. Alors on en était là jusqu'à la Pentecôte. À la Pentecôte, l'Esprit tombe sur les disciples, sur Pierre qui prend la parole. Et il fait son fameux discours qui a surpris tout le monde venant d'un simple Galiléen. Et dans son discours, il cite le psaume 8 à 11, donc le psaume que nous étudions maintenant, dans la version, enfin rapportée dans nos Bibles, selon la version grecque des Septante. Et voilà ce qu'il dit, Pierre. On a fait, David dit de lui, Jésus de Nazareth, dont il venait de parler, « Je voyais le Seigneur constamment devant moi, car il est à ma droite, pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est plein de joie, et pourquoi mes paroles débordent d'allégresse. Même mon cœur, mon corps reposera dans l'espérance. » Quelques petits mots changés. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence. C'est très clairement ce psaume. Mais Pierre le commente. Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau existe. On a presque l'impression qu'il dirait là-bas et qu'il le montre du doigt. À l'époque, c'était possible. Il existe encore près d'ici aujourd'hui. Mais, rappelle Pierre, il était prophète. Et il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. C'était en effet une prophétie qu'on retrouve en Samuel et dans les psaumes. Ainsi, continue Pierre, David a entrevu par avance la résurrection du Christ et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Pierre est le premier à utiliser ce mot de résurrection, le réveil des morts. Dieu a ressuscité des morts, il tape encore sur le clou, ce Jésus dont je parle, nous en sommes tous témoins. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup à commenter cette argumentation de Pierre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il donne encore un autre titre à David. Il dit le patriarche. Normalement, les patriarches, c'était les fils de Jacob ou c'était Abraham, bref, ceux qui étaient à l'origine des 12 tribus. S'il utilise ce mot, c'est pour montrer que David est à l'origine de la lignée royale qui durera dans l'éternité et dont le Christ fait partie, dont le Christ est le dernier représentant. David est un prophète, il est un patriarche. Donc pour Pierre, c'est simple, Jésus-Christ, c'est le roi Messie annoncé dans toute l'Écriture. Une quinzaine d'années plus tard, Paul se trouve avec Barnabas à Antioche de Pisidie. Et comme d'habitude, il va à la synagogue, on lui demande de parler, et il a en face de lui des juifs lettrés et des croyants en Dieu, des prosélytes. Et voilà que Paul va dire la même chose. Enfin, c'est Paul. Alors il y met plein de citations prises dans l'Écriture. Je ne les ai pas toutes mises. Mais on retrouve le psaume 16. Et Paul commence par dire: je vous annonce une bonne nouvelle. Jésus, dont vous avez entendu parler, mort sur la croix, ressuscité par Dieu, conformément aux Écritures, c'est le Sauveur d'Israël. Ses disciples en témoignent à Jérusalem et partout. Et il cite ce que Dieu avait promis à nos ancêtres. Il l'a pleinement accompli pour nous qui sommes leurs descendants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit. Tu es mon fils bien-aimé et aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Je crois que c'est ça, le psaume 2,7. Dieu avait annoncé celui qui ne devait pas retourner à la pourriture. Selon les bénédictions promises à David, c'est le psaume 89, c'est long, je ne le cite pas. Mais il est encore dit, et c'est là ce qui nous intéresse, « Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. » Pourtant, commente Paul, David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, s'est endormi. C'est la manière dont on disait « il est mort ». Et il a été enterré aux côtés de ses ancêtres. Il a donc connu la décomposition. Mais celui que Dieu a ressuscité, ce Jésus dont je vous parle, lui ne l'a pas connu. Je vous rappelle que pour des Juifs, dans un procès, il fallait deux témoins. Ben là, on a en tout cas Pierre et Paul, à quelques années d'écart. Donc, Paul va conclure, « Sachez, mes frères, que c'est grâce à lui, à Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que tout homme qui croit est acquitté de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être acquitté par la loi de Moïse. » Tout homme, et donc toute femme, qui croit, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire moi, tous les croyants, les millions de croyants depuis 2000 ans. Alors, il y a des conséquences dans notre vie actuelle. Mais j'appelle un troisième témoin. C'est ce dialogue. Si la mort corporelle n'est pas la fin de la vie humaine, Jésus l'affirme lui-même dans ce magnifique dialogue avec Marthe, après la mort de Lazare. Ton frère reviendra à la vie. Je sais bien qu'il reviendra à la vie le dernier jour, lors de la résurrection des morts. Elle partage cette croyance que tout le monde n'a pas. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Eh bien, allons-nous répondre aussi à Jésus ? Oui, Seigneur, je crois que tu es celui qui devait venir, et je crois que tu es ressuscité. Et je crois que ta résurrection anticipe la mienne. Tu es le premier et pour l'instant le seul ressuscité. Alors, que devons-nous en conclure ? La mort biologique n'est qu'une étape dans une vie éternelle. C'est une porte, un sas. Vous savez, on ouvre une porte et puis un bout plus loin, on referme l'autre. À traverser de notre vie éternelle dans la présence de Dieu, Père et Fils. La mort n'est qu'un endormissement que Dieu va dissiper à la fin des temps ou au retour du Christ. David disait, sans nier la mort physique, « Mon corps repose dans la paix ou dans la confiance, dans l'espérance, disait la Septante. » Et Paul ajoutait, c'est bien connu, « Ô mort, qu'est devenue ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Alors, est-ce que nous sommes rassurés ? Ou est-ce que nous avons tout de même peur de la mort physique ? Je pose la question. On se la pose tous. Je n'ai pas de réponse, j'ai ma réponse, mais chacun doit y réfléchir. Et malgré cette mort physique, comment éprouver et partager la joie débordante de David, qu'on voyait à plusieurs reprises dans ce psaume ? Jésus l'appelle une joie parfaite. C'est une joie surnaturelle. C'est la joie du croyant en Dieu. Et Jésus disait, « Je vous donne ma joie. » C'est celle du Christ uni à son Père. C'est celle de Paul, c'est celle des disciples et des martyrs depuis 2000 ans. C'est celle aussi de croyants que nous connaissons, qui vivent des vies difficiles, qui pourtant visiblement éprouvent cette joie surnaturelle. Comment l'éprouver nous-mêmes ? Le contraste est violent avec les non-croyants qui, eux, vivent dans les tourments en courant après leurs idoles. Si nous ne voulons pas être comme eux, il n'y a qu'un moyen. C'est de prier Dieu comme on l'a chanté tout à l'heure. On lui confie nos soucis, on lui confie nos peurs, nos chagrins. Lui seul peut prendre nos fardeaux et nous aider à les surmonter. Il faut partager la confiance de David, partager la confiance du Christ, même à Gethsémané. Mais c'est une lutte de chaque instant. Et c'est notre travail. Alors ayons foi, croyons de toutes nos forces qu'il y aura cette plénitude de joie en ta présence. Elle a déjà lieu. Et un bonheur éternel auprès de toi. David l'a entrevu. Marchons avec patience dans ce chemin de vie qui est en fait le chemin qui mène à la vie, avec un grand V, la vie en Christ. Ce chemin mène à la vie, il ne mène pas à la mort. Ainsi soit-il.